Chapitre 106. Didier lève les yeux en entendant les pas se rapprocher, et l'instant après, Lawrence apparaît à la lueur des appliques. Didier lui fait un petit signe mou de la main et se dit que cet homme va bientôt courir d'une chambre à l'autre tenant ses boyaux dans ses bras. Lawrence a l'air d'avoir pleuré pendant une nuit entière. Ses paupières sont gonflées et rouges. « Tu as retrouvé les téléphones ?» demande-t-il en battant nerveusement des cils. « Ils sont introuvables, » répondit Jay. « Nous pensons que c'est Rex qui les a pris, » dit Lawrence d'une voix tendue.
« Rex ? Et pourquoi il ferait ça ?»«
C'est ce qu'on pense, c'est tout. »
« Toi et James, vous pensez ça ?»
Oui. Lawrence pique un phare. Il s'engouffre derrière le comptoir et allume un des ordinateurs. La pluie crépite contre le toit et les grandes fenêtres sombres. L'orage meugle au-dessus de la forêt et le flanc de la montagne reprend son souffle et revient à la charge avec une fureur accrue. 2 mois seulement après le dernier séjour de DJ en Irak, son grand-père était mort en laissant sa fortune à son unique petit-fils. La grand-mère de DJ était décédée 2 ans plus tôt. Il s'était rendu à l'établissement de santé pour voir sa mère, mais elle ne l'avait même pas reconnue. Il était seul. C'est alors qu'il avait décidé de partir en Suède, au moins pour rencontrer son père. Rex était déjà un brillant cuisinier. Il avait été invité à beaucoup d'émissions de télévision et avait publié un livre sur la cuisine et les vins. DJ avait créé une société de production, pris le nom de jeune fille de sa grand-mère et contacté Rex sans envisager un seul instant de lui révéler qu'il était son fils. Pourtant, il avait été pris d'une nervosité extrême avant leur première rencontre et eut une crise de narcolepsie dans le petit passage qui menait au salon de thé où ils avaient rendez-vous. Il s'était réveillé par terre et était arrivé avec une demi-heure de retard. Il ne se ressemblait pas, à part peut-être quelque chose dans les yeux. DJ avait fait à Rex une proposition de collaboration. Il lui avait signé un contrat prodigieux, avait élaboré une nouvelle stratégie et en moins de 3 ans, était parvenu à le placer dans l'émission Nuets Moron tous les dimanches matins et à faire de lui le plus grand cuisinier du pays et une célébrité incontournable. DJ était devenu une sorte de manager pour Rex. Ils avaient commencé à se voir aussi dans un cadre privé et étaient finalement devenus amis. Il n'avait aucun doute, mais il n'avait pas pu s'empêcher de prendre quelques cheveux à Rex. Un jour, posté derrière le fauteuil où Rex était assis, il les lui avait arrachés avec une pince à épiler. Rex s'était retourné avec un aïe et s'était tâté la nuque. DJ avait ri et expliqué qu'il avait vu un cheveu blanc qui l'énervait. Sans les toucher, il avait glissé les cheveux dans des pochettes en plastique qu'il avait envoyées à 2 laboratoires différents pour des tests de paternité. Les 2 expertises étaient formelles. DJ avait trouvé son père et gardé son bonheur pour lui.
L'ordinateur ne marche pas, dit Lawrence derrière le comptoir.
Et 16 ans un autre, suggère DJ.
Lawrence le regarde, essuie la sueur de ses mains et hoche la tête en direction de la fenêtre.
On peut rejoindre Björkliden à pied d'ici?
C'est à seulement 20 kilomètres, répondit DJ.
J'irai dès que l'orage sera fini.
Durant toute la jeunesse de David Jordan, sa mère avait été soignée pour dépression unipolaire et tendance à l'automutilation. Après la fameuse visite où elle ne l'avait pas reconnue, DJ l'avait fait transférer dans une clinique haut de gamme, le Timberline Knowles Residential Treatment Center. Le médecin-chef considérait son état comme un syndrome de stress post-traumatique et avait modifié complètement son traitement. Pour Thanksgiving, DJ avait décidé de se rendre à Chicago et de lui dire qu'il avait l'intention de révéler à Rex qu'il était son fils. Il ne savait même pas si elle allait comprendre de quoi il parlait. Mais en entrant dans sa chambre, il s'était tout de suite rendu compte qu'elle avait changé. Elle avait pris ses fleurs
et l'avait remercié, lui avait offert du thé avant d'expliquer qu'elle avait été malade à cause d'un traumatisme psychologique. « Tu as commencé à parler au thérapeute de l'accident de voiture ?»«
L'accident de voiture ?»«
Maman, tu sais que tu es malade. Par moments, tu as même été incapable de t'occuper de moi. Je vivais chez mamie. »
DJ avait vu son étrange expression. C'était comme si elle faisait une chute vertigineuse quand il lui avait parlé du test ADN et dit qu'il avait approché son père, à qui il voulait dire la vérité. Elle avait posé sa tasse avec un petit bruit sec. Lentement, elle avait retiré sa main de la table et commencé à raconter ce qui s'était réellement passé. De plus en plus incohérente dans son récit, elle avait relaté tous les détails de l'agression sexuelle, la volonté des garçons de la blesser, la douleur, la peur et l'anéantissement. Elle lui avait montré une photo de groupe prise dans un lycée privé près de Stockholm, s'était mise à bégayer et à énumérer confusément les prénoms de tous ceux qui avaient pris part à l'agression. Il la voit encore. Sa main décharnée devant la bouche tandis qu'elle pleurait. Il lui disait qu'il était né d'un viol et que Rex avait été le pire de tous. Après avoir prononcé ces paroles, sa mère avait été incapable de le regarder. Lui-même avait eu la vision d'une puissante machinerie qui se mettait en marche, qui le happait et l'entraînait pour se faire inexorablement broyer.
« Il n'y a plus rien qui fonctionne, on est complètement isolé ici », fait la voix étranglée de Lawrence.
« C'est peut-être la tempête. »
« Je crois que je vais quand même essayer d'aller à Björkliden tout de suite. »
D'accord, mais couvre-toi mieux que ça et fais attention du côté des rochers, lui rappelle DJ.
Pas de souci, marmonne Lawrence.
J'ai un truc à te montrer avant que tu partes. DJ remonte le bord de la nappe, prend le poignard plat sur la table, se lève et le dissimule près de sa hanche en s'approchant du comptoir.